Vous écoutez IDFM, il est 18h.
Bonjour à toutes et à tous, Didier Delatte sur IDFM 98 pour une nouvelle saison de Rendez-vous Compte. Des rencontres inattendues qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes. Des projets solidaires partagés, des créations originales qui, autour de nous, enrichissent notre présent. C'est ici et maintenant. Alors aujourd'hui, pour ce premier rendez-vous de notre troisième année, un projet solidaire partagé. Je reçois en effet au micro de Rendez-vous Compte Monsieur Guy Dumont, alias Monsieur Nez Rouge, et Mathilde Payeux, marcheuse pour l'espoir. On y revient dans quelques minutes. Cette émission est dédiée à Célia, 8 ans, et à Sabrina, sa maman, de Marly-la-Ville, dans le Val-d'Oise. Monsieur Dumont, pouvez-vous vous présenter Monsieur Nez Rouge ?
Oui, tout d'abord, je voudrais vous remercier, Monsieur Delatre, de nous avoir invités, et merci à IDFM 98 de nous recevoir. L'association Monsieur Nez Rouge est une association caritative et humanitaire, régie par la loi 1901, et à but non lucratif et reconnu d'intérêt général. C'est important puisque nous pouvons émettre des reçus fiscaux pour chaque don. Nous menons des actions pour les tout-petits atteints de maladies rares, dites orphelines, orphelines de traitement ou presque. Et M. Nez Rouge a été et représenté dans le monde par de nombreux partenaires. Je crois qu'il faut rappeler qu'une maladie est dite rare lorsqu'elle atteint une personne sur 2000. Toutes ensemble, les maladies rares touchent ainsi plus de 3 millions de personnes en France et leur nombre varie entre 7000 et 8000 selon les sources.
Alors, ce surnom de Monsieur Nez Rouge, comment est-il né ? Comment s'est-il imposé à vous ?
Bien, c'est la suite de ma première campagne d'affichage en 2006, sur laquelle j'arborais un nez rouge. Un petit garçon que j'ai croisé dans la rue, accompagné par sa maman, ayant vu sur l'affiche, m'a baptisé Monsieur Nez Rouge. Pseudonyme que j'ai tout de suite adoré et adopté, et dont je suis très fier. Je voudrais ajouter que ce nez de clown symbolise pour nous le pied de nez que nous adressons à la maladie et à la fatalité.
Alors, quel type d'actions entreprenez-vous et comment les décidez-vous ?
Ces actions sont diverses et variées. Ce sont des rêves pour nos filleuls, différentes collectes que nous organisons sur la plateforme Eloasso pour différentes destinations. Par exemple, achat de matériel, prothèses crâniennes, fauteuils électriques adaptés, lits douches, véhicules aménagés pour le handicap et la maladie, ou encore, par exemple, un cheval pour l'équithérapie, ou bien des méthodes thérapeutiques exclusivement données à l'étranger, ou bien encore lever des fonds pour la recherche médicale et scientifique. Et cette liste n'est pas exhaustive, naturellement.
Est-ce que vous recevez des soutiens d'associations, de personnalités, d'organismes publics ?
Oui, quelquefois, naturellement. Par exemple, j'ai les clubs-services comme le Lions Club et le Rotary, des biens qui nous sont aussi transférés après dissolution d'associations, comme c'est le cas, ça a été le cas il y a 2 mois, qui achèvent leur activité, des touquets. Alors, le touquet, c'est une monnaie solidaire qui est distribuée par le Crédit Agricole et qui sont redistribués à M. Nez Rouge par les sociétaires du Crédit Agricole. Des subventions de mairie ou d'élus parlementaires, des subventions de l'ODER, que vous connaissez bien, qui fait suite à la grande brocante qui est organisée tous les ans à Montmorency. Mais ces soutiens, bien sûr, financiers sont aléatoires.
On peut retrouver toutes vos actions depuis des années sur Internet dans le journal de François, que vous connaissez bien, ce journal de proximité de la vallée de Montmorency, où la culture, les initiatives solidaires, l'histoire locale, le patrimoine sont à l'honneur. On y retrouve l'historique de toutes vos initiatives, depuis les concerts gospel à Groslay, votre base de départ, au baptême en avion, passant par les foulées de la route de la soie en 2012, en Inde, au pied du Taj Mahal, ou la première marche humanitaire dans les temples d'Angkor au Cambodge en 2016. Rendez-vous compte. Alors, quelle est l'actualité immédiate de Monsieur Nez Rouge ?
Eh bien, dimanche dernier, nous avions un stand sur Access Assos à Deuil-la-Barre avec plusieurs bénévoles. Et samedi prochain, nous sommes présents sur le forum des associations de Groslay. Sur ces deux manifestations, nous avions installé une tirelire de la Marche de l'Espoir ainsi que le calicot et le roll-up que Mathilde a transporté tout au long de son exploit. Car il faut simplement rappeler que la collecte ne se terminera qu'à la fin du mois et que tous les dons sont encore les bienvenus sur la plateforme Eloasso. site de notre partenaire avec lequel nous œuvrons depuis plusieurs années en pleine confiance et sur lequel vous pouvez retrouver toutes nos collectes en tapant sur la barre de recherche Hello Asso, Monsieur Nez Rouge. Nous devrions remettre dans quelques jours, Mathilde et moi, le chèque de montant global à Sabrina, la maman de Célia, récolté grâce à tous nos généreux donateurs et sponsors qui nous ont fait confiance et qui ont soutenu Mathilde tout au long de son exploit du cœur. Ainsi qu'un grand merci à Fabienne, Véronique et David qui se reconnaîtront. En ce moment, comme vous le savez, depuis le 24 août, Monsieur Nez Rouge est représenté sur le toit du monde avec la grande traversée du Népal par la haute route. Une action qui est réalisée par mes amis et partenaires Frédéric Laurent et Christophe Lebrun. 2000 km en plusieurs étapes avec des dénivelés qui varient entre 2000 et 6000 mètres.
On peut consulter également très simplement sur Internet votre journal numérique en ligne. De quelle manière? Comment s'appelle-t-il et comment y a-t-on accès?
Eh bien, vous allez, pour toutes nos parutions qui sont numériques, informations comme les news, Monsieur Nez Rouge, sont lisibles sur Internet, sur Calaméo, en tapant simplement aussi sur la barre de recherche Calaméo, Monsieur Nez Rouge.
Voilà. Donc, depuis le numéro 1, en avril 2019, une page, jusqu'au numéro 34 du mois de juillet récent, 34 pages, avec Mathilde en couverture. On écoute un premier extrait d'une chanson interprétée par Grand Corps Malade et Louane, une chanson qui s'appelle « Derrière le brouillard ».
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
Y a pas de recette pour supporter les épreuves, remonter le cours des fleuves quand les tragédies pleuvent. Y a pas de recette pour encaisser les drames, franchir les mers à la rame quand l'horreur te fait du charme. Y a pas de recette, toi t'en avais pas non plus. Personne t'avait prévenu, tu t'es battu comme t'as pu. Y a pas de recette quand l'enfer te serre la main, abandonner c'est humain, l'avenir c'est loin. Mais tu t'es mise à chanter, même pas par choix, comme à chaque chute, à chaque fois ça s'est imposé à toi. Chanter comme un enfant surpris, comme un instinct de survie, comme un instant de furie. Chanter pour accepter, exprimer, résister, avancer, progresser. C'est exister, chanter comme une résilience, une délivrance, chanter comme une évidence.
On vient d'entendre un extrait de Derrière le brouillard, interprété par Grand Corps Malade et Louane. Bonjour Mathilde, comment pourrais-tu te présenter ?
Eh bien bonjour Didier, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de votre chaîne. C'est un plaisir aujourd'hui d'être à votre micro et puis aussi de te retrouver quelques années plus tard, on y reviendra, c'est un plaisir. Alors pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Mathilde, j'ai 22 ans et je suis étudiante en droit, plus particulièrement en dernière année d'études. Et donc ce qui fait un petit peu d'écart vu que la dernière fois qu'on s'était vu, j'étais encore sur les bancs du collège. Mais depuis, il y a bien une chose qui n'a pas changé, c'est mon engagement pour l'association Monsieur Nez Rouge, qui est du coup présent aujourd'hui, et on est présent pour présenter son action.
Donc tu es là pour parler de ton exploit, on va dire, hein, de ta marche pour l'espoir. Est-ce que tu peux nous expliquer l'origine de ce projet ? Mm-hmm. Comment s'est-il élaboré avant même le départ ?
Oui, alors en fait cette année 2022-2023, elle marquait pour moi mes 10 ans d'engagement au sein de l'association, on en reparlera peut-être plus tard, de la jeunesse. Et pour célébrer cette date anniversaire, on voulait vraiment marquer le coup avec Guy par un événement un peu différent de ce qu'on peut proposer d'habitude. Et donc de cette envie de marquer le coup est né en fait un projet. Pour moi, c'était allier le sport avec le côté solidaire pour changer des actions qu'on peut mener. Avec Guy, on en a mené de plusieurs types, comme il l'a dit, des collectes, des événements de sensibilisation, des baptêmes. Et cette année, je voulais montrer à Guy que je pouvais aussi m'investir d'une manière nouvelle. Et c'est grâce à lui aussi, à son aide, que ce projet a pu naître. Il aime souvent dire « Donnez-moi une baguette magique et les pouvoirs qui vont avec et je ferai des miracles ». J'aimerais aujourd'hui dire que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en fait, la baguette magique, c'est son cœur et les pouvoirs, c'est sa bienveillance sans limite. Et c'est ce qui nous a permis d'œuvrer pour Célia sur cette marche de l'espoir.
Très belle formule. Justement, Célia, tu peux nous en dire un mot ?
Oui, tout à fait. Alors Célia, c'est une petite filleule de l'association qui est atteinte de DNAI, donc dystrophie neuroaxonale infantile, qui est en fait un syndrome neurodégénératif qui touche un cas sur 1 million environ, ce qui rappelle bien que c'est une maladie orpheline, donc orpheline souvent de traitement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec notre petite filleule, qui ne peut donc pas marcher, pas tenir debout toute seule. Et il y a assez peu de traitements qui sont proposés, et récemment un laboratoire à Lille, Aptéus, a proposé de faire des expérimentations pour réussir à obtenir un traitement, mais le coût est à hauteur de 80 000 euros. Et c'est pour ça qu'on a choisi ces liens en particulier face à l'urgence de la situation. L'espérance de vie des enfants qui sont atteints de ce syndrome, c'est entre 5 et 10 ans. Et Célia, aujourd'hui, 8 ans. Donc on est face vraiment à une urgence qui a justifié très rapidement ce choix. Je pense que c'est, au-delà du format du projet, le premier sujet sur lequel on est tombé d'accord avec Guy.
D'accord. Quelle a été ta préparation physique et mentale pour ces 2 semaines sportives ?
Eh bien, tout d'abord, on a dû chercher avec Guy des sponsors. Ça a été la première étape, mais il en parlera sûrement mieux que moi, vu qu'il s'est beaucoup focalisé sur cette partie-là. Et ensuite, de mon côté, j'ai eu le côté matériel, donc plus cette fois-ci sur le sport, où je me suis concentrée pendant les 6 derniers mois avant le départ sur, bien sûr, du renforcement musculaire, de la course et de la marche pour me préparer à tenir ces 200 kilomètres. Et ensuite, sur le côté matériel, j'ai été aidée par ma famille pour préparer le tracé, qui n'est pas forcément facile à préparer en amont. Donc, tout le monde a pu œuvrer avec moi pour choisir mes étapes. Mes différentes étapes, on s'est basé sur la présence de ma famille en Bretagne pour avoir un projet solidaire un peu à tous les points de vue. Et donc, c'est eux qui m'ont aidé à délimiter mes différents points d'arrêt. Et ensuite, sur la partie réservation des logements, logistique, j'ai été aidée de ma mère et puis de mon père et de ma tante.
Donc, une action solidaire familiale aussi. Exactement. Mais je crois que tu as bénéficié aussi d'une préparation mentale.
C'est ça, d'un vrai soutien. Si je puis dire, de la part, oui, de ma famille et de tous ceux qui nous ont soutenus, aussi Guy en première ligne.
Et une certaine Mélissa, non ?
Tout à fait, oui, c'est une amie que j'ai et qui m'a beaucoup aidée sur le plan sportif à me préparer, puisqu'elle était ancienne sportive de haut niveau, et qui m'a beaucoup soutenue dans ce projet pour me montrer qu'il était possible de réaliser ce rêve-là qui me tenait à cœur.
Donc un tel projet, c'est-à-dire marcher pendant 2 semaines sur un sentier de grande randonnée, plus de 200 kilomètres quand même, ça demande une organisation matérielle précise avant et pendant la marche. Comment vous vous êtes organisé ?
Alors on est parti sur l'idée tout d'abord qu'on allait aller en Bretagne, comme je vous le disais, pour faciliter le logement, vu qu'il fallait aussi penser logement. Est-ce que je décidais de dormir, de faire un parcours type bivouac et de dormir dans des gîtes? Là j'ai préféré m'appuyer sur ma famille, c'est eux qui, donc tous les matins ma mère me déposait, plus particulièrement garer la voiture au point de départ, marcher avec moi les 8-9 premiers kilomètres, faisait demi-tour en me laissant continuer mon chemin jusqu'à mon étape du jour. Moi, je faisais en moyenne entre 22 et 27 kilomètres. Et arrivée sur mon point final, elle venait me rejoindre pour me récupérer. Ensuite, pour pouvoir manger et un peu récupérer. Et on continuait ça, du coup, tous les jours. Elle revenait, on retournait au point de la veille et on continuait à marcher comme ça. C'est la boucle qu'on a suivie pendant la première phase, donc du 5 au 10 juin, que j'ai réalisé dans le Finistère. Et ensuite, ma mère m'a ramenée dans le Morbihan pour que je sois récupérée par ma tante. Donc c'est très familial, très bien organisé, pour ensuite être déposée à Belle-Île-en-Mer et faire le tour de Belle-Île où le même circuit s'est passé, cette fois-ci avec l'aide de mon père, qui, pareil, me déposait tous les matins et revenait me chercher.
Très, très organisé. Hein.
Oui.
Donc, je crois que ta marche est partie d'un lieu symbolique.
C'est ça, tout à fait. On est parti de la pointe de Pénir, la borne des 1000 km du GR, qui nous paraissait être un point assez symbolique pour débuter cette marche, et aussi parce qu'on a eu le soutien du maire Joseph Lemerour. Donc c'était une belle manière de commencer que d'avoir un soutien pareil et de sentir les habitants qui se sentaient concernés par la cause. On a pu avoir un vrai temps d'échange avant de me lancer dans le projet, où j'ai échangé avec eux sur la maladie de Célia, sur aussi l'investissement des jeunes, c'est un sujet qui a beaucoup intéressé sur mon trajet, et ensuite on s'est lancé à la de cette première journée avec ma mère.
Oui, donc un accueil des autorités locales.
Tout à fait.
Avec des discours, avec la présence d'élus sur place, mais aussi la presse locale. Je
tout
crois qu'il a vraiment rendu compte de ton exploit.
Oui, c'est ça. On a été beaucoup relayés par la presse locale, qui était d'ailleurs présent le premier jour, tant à Belle-Île qu'à la pointe de Pénir. Et également à la fin, j'ai également eu la presse présente le dernier jour. Ça a permis de vraiment relayer l'événement, je pense, et de permettre de faire rayonner ce qui se passait lors de ma marche, parce qu'en les rencontrant à différents moments, j'avais aussi une appréciation différente. Au début, plus l'appréhension mêlée à l'excitation. Et puis, au fur et à mesure, je me sentais de plus en plus sereine dans ma marche et je pouvais partager avec eux. C'était une manière de compléter un peu un journal de bord vivant avec eux.
On reviendra sur ton journal de bord. Quand même, la durée des étapes était d'une vingtaine de kilomètres par jour, c'est ça, à peu près?
Alors, initialement, le projet, c'était de faire 20 kilomètres par jour. Ouais. Et très vite, avec Guy, en fait, pendant le parcours, on s'est rendu compte qu'il serait mieux pour les personnes qui me suivaient d'avoir des vrais points étapes, c'est-à-dire que de décider que je m'arrêterais dans telle ville, parce qu'il est assez difficile de calculer à l'avance la distance exacte. Donc, en réalité, j'ai plus fait entre 25 et 27 par jour, plus que 20. Voilà, mais c'était à peu près cette distance-là qu'on a eu, une bonne vingtaine de kilomètres.
Pas mal quand même, hein, oui. Sur un sentier de grande randonnée, le sentier des douaniers, hein, comme on l'appelle, où il y a quand même un certain nombre de dénivelés et qui n'est pas toujours facile à appréhender. Voilà. Le temps était comment ?
Eh ben, on a eu beaucoup de chance, un mois de juin tout à fait, vraiment radieux, oui. On a eu une météo... franchement fabuleuse, je ne peux pas me plaindre, avec un soleil qui a toujours été présent, mais pas non plus... trop fort, donc c'était très bien, sauf à Belle-Île. Alors là, Belle-Île, c'était une expérience à part entière. Oui. Il fait très chaud, il n'y a pas d'ombre, donc c'était une expérience un peu à part. Mais sur la première partie, j'ai juste une journée de pluie. Mais bon, c'est pas grave, c'est les aléas de la marche et on a tenu bon, c'était l'objectif qu'on s'était fixé, 20 km par jour, donc je l'ai fait malgré la pluie.
Alors, signalons à nos auditeurs qu'en Bretagne, il ne pleut pas tous les jours.
C'est ça.
Enfin, on dit des fois qu'il ne pleut que deux fois en Bretagne, une fois six mois, une fois trois mois, mais c'est complètement faux maintenant. C'est la bonne région pour échapper à la canicule. Voilà, petite parenthèse. Alors, tu as fait part de ton enthousiasme, des rencontres que tu as pu faire, mais il y a aussi, moi j'ai lu ton journal, il y a des moments où c'est un peu difficile.
Oui, c'est ça, tout à fait. C'est vrai que sur le côté marche en lui-même, l'effort physique m'a pas dérangé finalement si on se plaît très rapidement à ce genre d'exercice où pour ma part c'était un peu une phase de méditation où je pensais beaucoup aussi à Célia, au fait que j'avais beaucoup de chance de pouvoir réaliser cette action là mais le corps des fois a ses limites et je suis pas forcément habituée à marcher 30 km par jour, donc j'ai eu l'épreuve des ampoules, des pas de blessures, donc c'est très bien, mais les ampoules, les courbatures se sont vite, ça a été mes compagnons de voyage les plus fidèles si je puis dire, mais c'est pas grave, on est passé au-dessus et tout s'est bien passé finalement.
Alors tu signales aussi dans ton journal de bord que tu éprouves le calme, la solitude, le bruit de la mer, l'odeur de la forêt. Enfin voilà, c'est aussi une expérience, disons, sensuelle, où tout le corps est en jeu et tout l'esprit et toute l'âme en fait.
Oui, voilà, c'est ça. C'est pas simplement un effort physique en soi. C'est, je trouve, un vrai moment de méditation avec soi-même. J'étais vraiment toute seule sur ce GR. Il y a des journées où pendant 6 heures, je n'ai croisé personne à part ma mère les deux premières. Mmh. Et pourtant, ces 4 heures qui passaient à une vitesse assez troublante, parce que finalement j'étais concentrée dans mon effort, mais c'était aussi un vrai moment de réflexion, ou des fois aussi un peu d'émotion quand j'étais à Belle-Île, où j'ai pensé, c'est là qu'est né le projet, mais j'ai pensé, je me suis remémorée un an plus tôt, en me disant, ah oui, bah finalement on l'a fait, donc c'était vraiment des moments de réflexion assez intenses, et finalement très sereins. Je pense que ma mère ne m'a jamais vue finir le parcours en étant spécialement fatiguée, j'étais vraiment sereine pendant cette marche. C'est un vrai exercice à tester.
Voilà, donc à recommander aussi à nos auditeurs qui sont parfois un peu dans le stress ou dans l'incertitude. Une bonne expérience, la marche. Tu as rencontré aussi quelques animaux à l'occasion.
Ah oui, bah, j'ai une sacrée anecdote à vous livrer à cet égard. Bon, j'ai croisé des différents oiseaux, la faune et la flore de Bretagne est très sympathique. Jusqu'au moment où, après une côte assez difficile, j'étais un peu essoufflée, la tête baissée, ne pas faire ça, car je suis tombée nez à nez avec une chèvre naine qui avait l'air décidément, enfin pas forcément convaincue par mon passage. Et donc j'ai un peu, je sais, naine, ça devrait pas faire peur, mais je me suis dit, manquerait plus que la marche de l'espoir s'achève là à cause d'une chèvre qui décide de me charger. Donc j'ai attendu patiemment, j'ai tenté de la dissuader. Avec un duel de regard, bon, j'ai fini par contourner la bête. Tout s'est bien passé, mais j'ai fait des rencontres locales.
Voilà, très bien. On écoute un deuxième extrait de Derrière le brouillard, interprété par Grand Corps Malade et Louane, une chanson que l'on dédie à Célia et à sa maman Sabrina.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage. Thank you.
À quel moment tu comprends que c'est ton truc, que la musique revient pour te relever de chaque chute? À quel moment tu sais quelle est ta boussole, quand la vie te punit, la musique te console? À quel moment ce piano a chanté, ses accords t'ont hanté, ont choyé ta santé? À quel moment il est ta respiration, et à quel moment on en fait une chanson?
Vous êtes toujours bien sur IDFM 98 à l'écoute de ce rendez-vous compte, et on retrouve Mathilde et sa marche de l'espoir en faveur de Célia. Mais avant de retrouver Mathilde, Guy, un petit mot sur cette chanson de Grand Corps Malade.
Oui, effectivement, si j'ai choisi cette chanson, que je dédicace bien sûr à Célia et à Sabrina, c'est parce qu'elle reflète le vécu de ses parents, de courageux et combatifs qui, au travers de l'épais brouillard justement qui obstrue leur vision de l'avenir incertain, et malgré cet inconnu, persévère, comme Sabrina, dans son combat pour sa petite fille, Célia.
Mathilde, on te retrouve. Donc, tu es ambassadrice et bénévole de Monsieur Nez Rouge depuis 10 ans. Si on calcule, tu as 22 ans, 22 moins 10, ça fait 12 ans. Donc, tu t'es engagée pour la cause des enfants malades extrêmement jeunes, dès ton entrée au collège. Le collège Louis-Augustin Bosc de Saint-Prix, en classe de 6e. De quelle action s'agissait-il, Mathilde?
Eh bien, à l'époque, on avait réalisé une vente de gâteaux que j'avais faite avec ma meilleure amie Mathilde, qui était elle aussi collégienne au collège Louis-Augustin Bosc, et avec le concours et le soutien de nombreux professeurs du collège, si je ne me trompe pas, vous faisiez partie de cette liste. Et on avait vraiment créé de toutes pièces cet événement. On avait créé des affiches à la main qu'on avait disposées dans le collège. On avait appelé la contribution des élèves pour fabriquer des gâteaux, qu'on a ensuite vendus lors d'une réunion parents-professeurs. Et on avait réceptionné les gâteaux le jour J, installé les stands, créé des tirelires. Enfin, c'est un événement qu'on avait vraiment préparé sur toute une année, et qui a ensuite permis une contribution à la création de la maison des parents de l'hôpital pour les enfants de Montmorency.
Alors, pour tout savoir sur cette action, vous pouvez retrouver l'article du Journal de François intitulé « Monsieur Nez Rouge invité au collège Louis-Augustin Bosc à Saint-Prix », collège que je connais bien puisque j'y étais professeur, et c'est là que j'ai connu Mathilde à l'époque. Bonjour à tous mes anciens collègues. Mathilde, qu'est-ce qui t'a amené à cet engagement pour les enfants malades alors que tu étais toi-même encore une enfant?
Eh bien, c'est juste parti initialement d'un exposé qu'on devait réaliser en éducation civique, et ma mère m'avait suggéré à juste titre de présenter une association dont on connaissait très bien le président Guy, qui est un ami de la famille. Et donc c'est un peu comme ça que j'ai vraiment découvert son association, puisque j'étais encore assez jeune et je me rendais pas forcément compte de ce que faisait Guy. Et finalement, en faisant mes recherches et en échangeant avec lui pour avoir l'exposé le plus qui reflétait le plus ses actions, et ben je me suis dit, finalement, on n'a pas tous forcément la même chance, et j'ai voulu m'investir pour ces enfants qui étaient malades. Alors c'est parti de cette vente de gâteaux qui a été un premier pas, et j'ai été à l'issue assez fière de réussir à contribuer à une telle action à mon échelle. Et suite à ça, une fois qu'on met le pied à l'étrier, je pense qu'on a du mal à le retirer, et donc j'ai suivi Guy dans plusieurs actions. Au début, vraiment, je l'accompagnais pour les gospels, par exemple. Il me semble que c'est la première action sur laquelle je l'ai retrouvé ensuite, et petit à petit, une fois qu'on a mis le pied à l'étrier, on monte sur la selle, et je l'ai vraiment aidé. On a fait ensemble, on a cherché ensemble des partenaires pour des baptêmes de l'air. Enfin, je suis devenue de plus en plus une ambassadrice, comme il aime le dire, en parlant de mes actions et en développant le réseau de partenaires.
Donc 10 ans plus tard, tu es aussi motivée.
Toujours.
Toujours. Est-ce que tu as d'autres projets en perspective pour Monsieur Nez Rouge actuellement?
Eh bien oui, on aimerait beaucoup renouveler le format de la Marche de l'Espoir, qui a beaucoup plu. En tout cas, on a bien aimé préparer cet événement. Moi, le côté sportif m'a pas mal convaincue, et beaucoup de personnes se sont prêtées au jeu dans ma famille. Donc on voudrait continuer en faisant cette fois-ci peut-être sur l'île de Ré, vu qu'on a un filleul là-bas également.
Là, tu es encore étudiante. Quelle étude as-tu entreprise?
Eh bien, j'ai fait une licence de droit et je terminerai à la fin de l'année mon master en sécurité défense. Donc vous voyez, l'engagement est toujours au cœur finalement de ma vie. Sécurité défense qui m'amènera sûrement sur une carrière dans l'armée.
D'accord. D'ailleurs, je crois que tu as fait un stage cet été dans ce domaine.
Tout à fait. Je suis à l'état-major des armées en ce moment.
Très intéressant, j'imagine. Est-ce que la solidarité aura toujours une place alors dans ta vie professionnelle?
professionnelle ou associative. Je pense qu'une fois qu'on a commencé, on a du mal à s'en défaire. Et ce serait d'ailleurs à contre-cœur que j'arrêterais. J'aimerais vraiment continuer cet engagement auprès de Guy, parce que c'est ce qui fait vivre son association. Et pour moi, continuer à porter la flamme de son engagement, c'est essentiel. Et également dans la vie professionnelle, avec cette carrière plus sur la vie publique, je continuerai toujours à m'engager, c'est certain.
Et je crois que Guy aussi compte beaucoup sur toi.
Oh oui.
Mathilde, quel message aimerais-tu transmettre aux jeunes qui nous écoutent ?
Eh ben, je pense que j'en aurais plusieurs à leur donner. Déjà, de jamais vraiment douter de leur projet. Et si quelque chose les anime et les fait vivre, d'alimenter cette flamme qu'il faut trouver, mais qu'une fois qu'on l'a trouvée et identifiée, enfin, c'est une vraie quête personnelle, mais une fois qu'on l'a, on s'épanouit vraiment. Et si c'est pas forcément l'associatif, ça peut être d'autres milieux. Mais vu que je suis ici pour parler de mon engagement, je pense que donner du temps pour les autres, c'est une expérience à vivre et à essayer, peu importe la forme, associatif ou non. Je pense qu'on peut donner des cours, on peut être entraîneur de sport. Il y a vraiment beaucoup de formes de don de soi à l'autre et qui sont toujours une expérience et une manière d'apprendre de soi-même. Moi, dans les rencontres que j'ai faites avec les parents ou les enfants, j'ai toujours eu le sentiment de découvrir à chaque fois un nouveau livre. Alors, j'aime beaucoup lire, donc la comparaison est facile, mais que chacun est un peu comme un livre qu'on apprend à lire au fur et à mesure et on apprend toujours de l'échange. Donc, bon, en plus pour l'ancien prof de français, pardon, que vous êtes, c'est une belle référence.
Très, très belle référence, je note. Pour terminer, on peut rappeler la collecte en faveur de Célia. Où est-ce qu'on en est? Comment peut-on faire pour y participer?
Bien, au jour d'aujourd'hui, nous avons une collecte qui arriverait vers les 15 000 euros. Je pense que c'est ce que nous remettrons bientôt à Sabrina. 15 000 euros qui englobe les dons qu'elle a reçus, Mathilde, sur son marche de l'espoir, plus tout ce qui était sponsorisé. Donc, je remercie bien sûr tous les gens, encore une fois, les bienfaiteurs qui nous ont aidés pendant cette marche de l'espoir. Et pour continuer justement à donner, vous pouvez vous rendre sur le Internet en tapant dans la barre de recherche « Hello Asso, Monsieur Nez Rouge, la marche de l'espoir ».
Donc, « Hello Asso hein, », en « Hello » comme « Hello » et « Asso » comme « Asso », mais en un seul mot.
Voilà, hein, voilà. Très bien.
Ah, oui, oui. Et effectivement, c'est un moyen très simple, on peut dire, de s'associer à de nombreuses collectes.
Voilà. Et je voudrais rajouter, ce cas-là, pour Hello Asso, c'est quand même le pot commun, si vous voulez, qui ne prennent pas de taxes. Donc, si vous voulez, quand il y a un euro qui est reversé à M. Nez Rouge, c'est un euro qui rentre dans notre comptabilité.
Et rappelons que grâce à Coluche et à son amendement qui a été voté par l'Assemblée nationale, quand vous faites un don, vous avez une réduction fiscale vraiment très importante.
C'est ce que je disais tout à l'heure, parce que nous sommes reconnus d'intérêt général.
Voilà, donc n'hésitez pas. Mathilde, un dernier mot ?
Eh bien, je suis vraiment très contente de vous avoir recroisé sur cette émission et de pouvoir échanger avec vous sur ce projet. On l'a mentionné dans les rencontres locales, mais j'avais aussi croisé un instituteur de CE1 sur mon chemin. Donc voilà, finalement, c'est un projet qui m'a permis de recroiser de nombreuses personnes qui ont fait partie de ce chemin associatif, vu que vous avez été également au début de cette œuvre associative avec la collecte. Et donc c'est un vrai plaisir d'être ici pour échanger avec vous et que la parole puisse être donnée à des jeunes engagés. Ça me touche particulièrement et c'est une manière d'inviter aussi les jeunes à se rendre compte qu'on peut toujours s'engager, peu importe la cause qu'on soutient.
Ouais, très bien. Et puis moi, en tant que professeur, c'est vrai que on passe du temps avec des élèves et puis après ils partent, ils font leur chemin dans la vie et on est toujours très très heureux d'avoir des nouvelles plus tard, surtout quand il s'agit de bonnes nouvelles comme celle-là. Donc n'hésitez pas à envoyer des petits messages à vos anciens profs. Voilà.
Je voudrais ajouter, si vous le permettez, merci Mathilde.
Je crois que tout le monde la remercie et merci aussi à sa famille qui est, je crois, très importante. Et merci à la Bretagne aussi.
Tout à fait.
Voilà.
Kenavo.
Voilà, notre émission se termine. C'était alors un grand remerciement à M. Guy Dumont, M. Nez Rouge, à Mathilde Payeux, marcheuse de l'espoir. On pense très fort aussi à Célia et à Sabrina, sa maman. Si vous êtes d'accord, écoutez, on se retrouve un peu plus tard dans l'année pour d'autres projets. Et puis, donc pour avoir les informations sur M. Nez Rouge, c'est comment on fait ? Information ?
Vous allez sur Facebook, vous me trouvez, à M. Nez Rouge. Vous cherchez M. Nez Rouge, pareil, vous tapez M. Nez Rouge sur Internet et vous allez voir plein de pages qui vont s'afficher.
C'était Didier Delatte sur IDFM. Merci à Francky pour la réalisation. À la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour un nouveau rendez-vous compte et de nouvelles rencontres inattendues qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes, des projets solidaires partagés, des créations originales qui, autour de nous, enrichissent notre présent. Ce sera ici et maintenant.